Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Drogue au Mali, cause et conséquences. Cause, conséquences et solutions, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. La consommation de stupéfiants constitue un fléau inquiétant chez les jeunes et adolescents. La drogue est une menace grandissante pour la couche juvénile au Mali. Plus de 70% des jeunes maliens de 18 à 25 ans consomment la drogue, dont 25% des filles. Cette révélation a été faite par le médecin colonel Ismaïla Makalou, secrétaire permanent de la MILD, mission interministérielle de coordination de lutte contre la drogue, le mois de juin dernier. Ces phénomènes deviennent de plus en plus inquiétants dans le pays. Quelles sont les causes et conséquences de cette consommation? Peut-on l'éradiquer? À ces questions et à bien d'autres vont répondre nos invités au nombre de trois. Abdoul Karim Batili, président de l'organisation de lutte contre les stupéfiants Olicos Mali. Diakaridia Sangaré, représentant du Conseil national des jeunes, CNJ, et Dr Salif Kone, pneumologue et tabacologue au centre hospitalier universitaire du Point G. Moussa Malé Sissoko pour modérer les débats.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dr Kone, pourquoi est-il important de lutter contre le trafic de la consommation et de la consommation de la drogue au Mali?
Il faut savoir que quand on parle de drogue, quand on parle de stupéfiants, il s'agit d'un problème de santé publique. Aujourd'hui, il a été constaté qu'un bon nombre, une bonne partie de la jeunesse malienne s'adonne à la consommation de ces stupéfiants. Et ces stupéfiants ont des conséquences dangereuses sur la santé des consommateurs. Donc les conséquences sont multiples et ça peut aller jusqu'à la folie. Donc d'où l'intérêt d'en parler, de sensibiliser auprès de ces consommateurs, expliquer aux parents. Ce qui est important aussi, qu'il faut signaler, ça c'est la consommation en milieu scolaire. Donc qui devient de plus en plus vraiment importante. Et il faut en parler.
Alors, Batili, vous êtes de la société civile, une organisation de lutte contre les stupéfiants. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les Maliens, notamment la couche juvénile, vers la consommation de ces stupéfiants?
Ok, merci. Moi, je dirais plus que quand on ne connaît pas quelque chose, donc on peut s'adonner à pratiquer cette chose ou à toucher cette chose. Ce qui se passe, la plupart des jeunes, ils touchent à ces stupéfiants, à ces produits, mais ils n'ont pas connaissance des dégâts, ils n'ont pas la connaissance des dégâts et des problèmes qui peuvent en découvrir après ça. Donc il faut multiplier les actions de prévention, de sensibilisation et d'accompagnement. Donc aussi, il y a le chômage qui est là, il y a la dépravation des mœurs, donc eux le laisser aller. Donc, il fait que beaucoup de ces jeunes s'adonnent à la consommation de ces produits.
Diakaridia Sangaré, est-ce que vous partagez cet avis? Sinon, selon vous, comment ces jeunes se procurent de ces substances toxiques?
Alors, je partage en fait l'avis de mon co-débatteur. Aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent dans ces situations. Il a parlé de la perte de repères. Des valeurs sociétales que nous avons. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes et les parents, pour la plupart, ont démissionné. Et quand on voit les pressions sociales, ce n'est pas évident pour tout le monde de gérer les pressions sociales. Certains vont se cacher derrière ces stupéfiants pour pouvoir fuir leurs problèmes. Et ces jeunes, ils se procurent ces stupéfiants au sein de la communauté, hein. Vous avez des vendeurs de médicaments qu'on appelle médicaments par terre. C'est des sources à travers lesquelles ils se procurent. Vous avez des trafiquants de ces stupéfiants qui sont certains, tous au sein de la communauté. Ils savent où les trouver et malgré tous les efforts des forces de sécurité dans la lutte contre ces pratiques, on voit que ça perdure. Donc c'est vraiment une situation qui doit interpeller tout un chacun, parce qu'on a tous notre responsabilité dans ce phénomène.
Est-ce à dire que la société malienne n'est pas suffisamment consciente du danger qui guette les jeunes?
Oui, parce que ceux qui vendent là, ils en font des sources de revenus, alors que ça détruit des vies. Il faut avoir une certaine prise de conscience pour se dire, bon, pour gagner ma vie, je ne dois pas contribuer à détruire et celle d'autrui. Parce que reposer son activité économique sur la vente de produits qui sont dangereux pour notre jeunesse, pour d'autres, c'est vraiment, il faut une prise de conscience pour se tenir loin de ces pratiques. Il n'y a vraiment pas de prise de conscience à ce niveau.
D'accord, une prise de conscience. Docteur Salif, est-ce que les parents, la société tout entière jouent réellement leur rôle?
En réalité, il y a des parents qui démissionnent. Et quand tu parles de drogue, quand tu parles de stupéfiants, ce sont des substances psychoactives qui agissent directement sur le système nerveux central et va entraîner des changements de comportement. Et cela peut entraîner d'énormes conséquences. Donc ces enfants qui consomment, ces adolescents et ces jeunes qui consomment, ce sont nos frères, ce sont nos enfants et ce sont nos amis de la communauté. Donc derrière chaque consommateur de drogue, il y a une famille, il y a une communauté, il y a une culture. Donc du coup, il faut qu'il y ait une conjugaison des efforts, une implication effective de toutes les souches de la communauté pour que nous puissions vraiment combattre ce phénomène. Et aujourd'hui, en marchant dans la circulation, on voit des gens qui portent des haillons et des habits sales. Et c'est des gens qu'on avait vus il y a quelques années, ils étaient dotés de toutes leurs facultés. Donc, du coup, vraiment, c'est un problème qui concerne tout le monde et il ne faut pas qu'on démissionne. Et la solution, nous pouvons l'avoir. Et quand il disait tout de suite, les gens qui vendent ces drogues-là, c'est des gens qui sont parmi nous. Et c'est nous-mêmes qui vendons ces drogues. Donc, en sensibilisant, et on peut trouver une solution. Et quand nous prenons l'exemple sur les cas de la chicha, et la chicha, elle a été interdite, la consommation et la vente. Hein? Donc c'est interdit sur toute l'étendue du territoire. Et les gens qui vendaient de la chicha ont pu quand même trouver d'autres astuces pour avoir des revenus afin de pouvoir joindre les débouts. Donc du coup, avec la drogue, on peut aller... La drogue, elle est interdite, hein, mais du coup, les gens ne respectent pas. Ça rentre de façon frauduleuse. Et donc là, il faut que la douane, il faut que les autorités, il faut que la police, la gendarmerie, qu'on essaie quand même de mettre l'accent sur la surveillance au niveau de nos frontières, dans les aéroports, et pour empêcher. Donc si on arrive à empêcher vraiment l'infiltration de ces substances sur le marché malien, les gens vont trouver quand même d'autres astuces pour gérer leur problème.
Ok. Bathily, est-ce à dire que la surveillance, le contrôle, vraiment ne sont pas suffisants pour vraiment stopper l'entrée, le trafic de ces substances toxiques?
Bon, en vérité, le Mali, c'est un pays qui est très vaste, avec beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. L'État fait son mieux à travers OCS, Office central des stupéfiants, à travers la douane, à travers la police nationale. Déjà au Mali, ici, c'est la répression d'abord. Quand on te prend avec la drogue, automatiquement, c'est la répression. Tout le temps, nous avons des saisies de drogue. Mais avoir le contrôle maximum, c'est très compliqué. Donc, d'où l'apport de la communauté même, de la population pour pouvoir lutter, facilitera encore le contrôle.
Ok. Oui. Selon vous, quels sont les types de stupéfiants qui sont plus consommés par ces jeunes?
Bon, déjà, la jeunesse malienne était avant, c'était le cannabis, qu'on appelle en langue locale juin. qui était le plus consommé. Mais maintenant, à travers le temps, nous avons vu qu'il y a le cocaïne et les dérivés, qui est le crack. Il y a l'héroïne qui est consommée aussi. Maintenant, vu qu'il y a un manque d'argent actuellement, donc les jeunes s'adonnent plus aux drogues de synthèse.
C'est-à-dire
ils mélangent les produits pharmaceutiques à d'autres boissons, donc pour avoir leur dose. Donc plus les psychotropes, c'est-à-dire les médicaments comme tramadol et autres, donc ils consomment ça aussi. Donc c'est des drogues qui sont les plus consommées actuellement. Et vu la migration, la jeunesse, nous avons vu qu'actuellement, ils commencent à produire à l'intérieur même du pays. Donc, il y avait l'importation. Vu que les actions, l'effort du gouvernement commence à maîtriser ça, il y a une production interne qui se fait de façon clandestine actuellement.
Donc, un réseau.
Un réseau de production. Donc, c'est ça maintenant qui est le chaos. D'accord. Donc, maintenant, il faut contrôler à l'interne et à l'externe.
Donc, la surveillance a créé des autorités compétentes.
Oui.
D'accord. Monsieur Sangaré, à votre niveau, Conseil national des jeunes, est-ce que vous, dans vos actions que vous menez, est-ce que vous remarquez que c'est des jeunes illettrés ou des jeunes qui sont scolarisés, voilà, ou qui sont au niveau universitaire, qui s'adonnent à ces pratiques?
Et c'est toutes catégories confondues. Hein. Vous avez des jeunes qui sont à l'université, au lycée, il y en a même qui sont déscolarisés. Vous avez ces jeunes qui sont apprentis, qui se trouvent au niveau des gares routières et autres. Il y a toutes sortes de jeunes aujourd'hui qui sont impliqués dans la consommation de ces stupéfiants, selon le constat.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la lenteur ou bien le courage des uns et des autres à dénoncer des cas?
Oui, comme je le disais, on sait qui sont ces gens qui les vendent et on sait qui sont ces jeunes qui consomment. Les familles protègent leurs enfants alors qu'ils font et le trafic et la consommation. Et chacun se cache sur le problème, essayant de le régler à son niveau. Et souvent, c'est au moment où ça devient incontrôlable et qu'ils sortent avec le problème. Et c'est ça qui fait que régler ces problèmes-là devient difficile souvent. Mmh. Ouais.
D'accord, docteur Koné, vous êtes pneumologue et puis tabacologue. Quelles sont les conséquences liées à la consommation de ces stupéfiants sur la santé de l'usager?
Voilà, je disais tantôt que ce sont des substances psychoactives qui agissent directement sur le système nerveux central. Mais avant de parler de ces conséquences, comme il l'a dit mon frère Bachili, nous avons des stupéfiants naturels aussi qui existent. Hein. Il y a les feuilles de coca, il y a ce qu'on appelle les feuilles de cannabis. Cannabis, souvent, les gens en cultivent ici,
au Mali,
produisent. Il y a certains qui le font. Moi, j'ai l'habitude de voir la plante même de mes propres yeux. Il y a des gens qui le font et qui le consomment.
Pourtant, c'est interdit.
C'est interdit. Mais maintenant, il y a également des drogues synthétiques et semi-synthétiques. Donc, dans ce lot, il y a les dérivés de la morphine, il y a l'amphétamine et il y a également des médicaments utilisés, certains médicaments utilisés pour traiter de la douleur. Il y a une dose médicale qui est là, mais les gens se permettent d'en abuser. Ils en abusent parce que c'est des médicaments qu'on trouve aussi dans la pharmacie par terre. Donc, par exemple, quand tu prends le cas du tramadol, le tramadol qu'on utilise pour traiter la douleur, c'est 37,5 mg associé au paracétamol. Mais quand tu pars dans la pharmacie par terre, tu vas trouver du tramadol dosé à 100 mg, à 200 mg. Et là, du coup, quand tu le prends, ça va entraîner une perturbation au niveau du système nerveux central. Et parlons des conséquences. Il y a de ces drogues-là qu'on fume, il y a des drogues qui sont inhalées et il y a des drogues même qu'on peut avaler. Et quand tu prends les drogues, les substances, les stupéfiants qu'on fume
ou encore qu'on inhale, ces substances peuvent avoir comme conséquence des maladies respiratoires. Comme symptôme, on a la toux, la douleur, des difficultés à respirer, mais à la longue, ça peut donner aussi une maladie qu'on appelle l'emphysème pulmonaire. Par exemple, quand tu prends le cannabis, les gens qui fument, ça va détruire le parenchyme pulmonaire et ça va donner l'insuffisance respiratoire chronique. Donc ces substances-là, quand tu les consommes aussi, donc ça va te donner une puissance, une force surnaturelle. Donc tu as une puissance qui n'est pas habituelle. Donc ça va te pousser à fournir des activités physiques intenses et qui peuvent avoir une répercussion sur le cœur. À la longue, le cœur sera défaillant, ça va donner l'insuffisance cardiaque. Et du fait que ça agit sur le système nerveux central, quand c'est un scolaire, ça va entraîner une baisse de la performance à l'école, ça peut entraîner, ça peut augmenter le taux d'abandon à l'école, et à force de consommer, ça va détruire carrément l'intelligence, le système nerveux, et ça va entraîner ce qu'on appelle la folie. Donc maintenant, et puis c'est des substances toxiques, c'est dangereux et c'est addictif. Ça crée l'addiction et plus on consomme, il y a l'accoutumance qui est là. On ne fait qu'augmenter progressivement sa dose et par la suite, ça peut toucher tous les organes.
Est-ce qu'au niveau de l'hôpital du Pongé, est-ce que vous recevez des patients qui ont des pathologies liées à la consommation de ces stupéfiants?
Beaucoup, beaucoup même. Au service de pneumologie, au service de psychiatrie, on reçoit beaucoup de jeunes. Il y a de ces jeunes-là, du fait qu'ils fument soit la cigarette, la chicha, ou encore ils prennent d'autres substances inhalées, ça va entraîner une destruction des poumons et puis ils font des infections pulmonaires à répétition. Il y en a aussi qui peuvent faire des maladies cardiaques, on reçoit en cardiologie. Et ceux-là qui deviennent, bon, entre guillemets, fous, encore qui développent des maladies mentales, ils sont pris en charge par les services de psychiatrie. Vraiment, il y en a beaucoup de cas aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des trans d'âge spécifiques?
C'est pratiquement des jeunes adultes. Et aujourd'hui, il y a des jeunes de moins de 10 ans qui consomment des stupéfiants. C'est prouvé. Et quand tu prends les jeunes et les chiffres sur le plan sur le plan mondial, il y a des enquêtes qui ont révélé qu'un adolescent sur 7 consomme des stupéfiants. Et le Mali n'est pas en marge. Il y a des enquêtes qui ont été menées au Mali, donc où on voit que c'est entre 15, la prévalence, hein, entre 15 et 20%. Donc, de ces adolescents qui consomment ou encore qui ont touché à des stupéfiants, et les femmes ne sont pas épargnées.
D'accord, docteur Kone. Alors, monsieur Batili, oui. Vous êtes une société civile qui oui. est montée au créneau oui. voilà, pour lutter contre ces phénomènes. Oui. Alors, des programmes qui sont proposés comme, pour prévenir ces phénomènes, le trafic, la vente et la consommation de ces stupéfiants, est-ce que ces programmes sont-ils efficaces?
Oui, parce que nous avons vraiment des programmes bien ficelés pour pallier au problème. Parce que tout d'abord, avant de lutter contre la drogue, il faut connaître d'abord qu'est-ce qui pousse les jeunes à la consommation de la drogue. Donc, il faut développer non seulement des programmes de prévention à travers les séances de sensibilisation et d'accompagnement, il faut aussi développer des programmes de réinsertion sociale. C'est-à-dire parce qu'il faut, il faut faire occuper la jeunesse, au fait. Il faut leur donner de l'emploi décent, il faut leur donner des activités à faire pour se réinsérer dans la société. Il y a aussi des programmes d'échange donc, qui permettent aux jeunes de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils ressentent réellement et ce qu'eux veulent pour leur avenir. Nous avons notamment un programme qui se nomme AgriBoost. C'est un programme d'agriculture urbaine qui forme les jeunes, qui les conscientise et qui les accompagne à travers des programmes d'agriculture urbaine pour ne pas s'adonner à la vente et à la prolifération des drogues. Donc tout ça, c'est des programmes sur place pour que la jeunesse ne s'adonne pas à la consommation et à la prolifération.
D'accord. Sangaré, à votre niveau au Conseil national des jeunes, est-ce que vous menez des actions non seulement pour aider les jeunes à ne pas s'adonner à ces pratiques, et également des actions que vous menez pour la réinsertion de ceux qui sont déjà dans le milieu et qui veulent sortir?
Oui. Effectivement, vous savez, nous, dans ce nouveau format du Conseil national de la jeunesse, nous sommes plus dans le faire-faire. C'est-à-dire que nous, en tant que fêtières, nous encadrons les organisations de jeunes afin de les inciter à toucher à tous ces secteurs de développement en faveur de la jeunesse. Donc, nous mettons en accent des initiatives de sensibilisation, de formation et des initiatives, et comme l'a dit
Bachili,
et le fait d'occuper les jeunes, les espaces de jeunes et l'aménagement d'espaces de jeunes afin qu'ils ne traînent pas dans les rues, qu'ils ne traînent pas avec d'autres qui vont les influencer négativement. Parce qu'il y a aussi ces facteurs. Beaucoup aussi se retrouvent dans cette consommation par influence de leur père. Parce que quand le jeune il n'a pas ce leadership et qui lui permet de prendre des décisions par lui-même, un autre peut le faire et prendre des choses.
Mauvaise fréquentation.
Donc, nous envisageons des initiatives d'aménagement des espaces de jeunes qui sont dans les communes, les régions. Et c'est pourquoi nous plaidons en fait pour que chaque commune, chaque localité ait un espace de jeunes qui doit être aménagé et avec des éléments de renforcement des capacités pour jeunes. Et accès à Internet et autres pour leur permettre de développer eux-mêmes et leurs compétences. La formation, chaque bureau de CNJ, par exemple, doit en son sein et avoir des jeunes pères éducateurs. Parce qu'ils sont aujourd'hui des références dans leur localité. Ils doivent pouvoir inciter d'autres à dire non à ces pratiques-là.
Est-ce que ces formations prennent en compte les jeunes qui ne sont pas allés à l'école?
Oui. Et que tu sois à l'école ou pas, ça concerne. Nos initiatives sont vraiment inclusives. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de que tu sois jeune homme, jeune femme, scolarisé ou non. C'est vraiment fait de sorte que tout le monde bénéficie de ces initiatives.
D'accord. Docteur Kone, selon vous, il y a beaucoup de patients qui vous parviennent à l'hôpital là-bas. Selon vous, quels sont les moyens concrets pour permettre de prévenir la consommation des drogues?
Donc, le mieux, c'est de ne pas même goûter à la drogue. Aujourd'hui, l'accent doit être mis sur la prévention. Et cette prévention passe par des campagnes de sensibilisation. Et il faut qu'il y ait un répertoire national de toutes les associations et ONG qui interviennent dans ces domaines pour que nous puissions mener le combat ensemble. Nous, en tant que des professionnels de santé, ce que nous faisons, c'est des consultations d'aide au sévrage. Et donc, et là, on prend en charge les enfants, on les accompagne, mais il faut que la société civile soit associée pour faciliter leur réinsertion sociale. Et pour combattre le fléau, il faut que les autorités mettent l'accent sur tous les porteurs d'uniformes. Il faut renforcer la fouille au niveau de nos frontières, au niveau des aéroports, parce que les gens peuvent les mélanger avec des bagages. Voilà, donc pour intégrer notre territoire. Donc, et là aussi, il faut quand même vulgariser ces campagnes-là auprès des écoles. On voit maintenant que beaucoup de nos scolaires, beaucoup de nos enfants consomment. Et il a dit à travers leur père, chacun veut ressembler à quelqu'un. Donc, du coup, si on met l'accent vraiment sur la sensibilisation donc dans les établissements scolaires et universitaires, dans la communauté, auprès des quartiers, et nous demandons aux autorités aussi d'accompagner les associations et les ONG qui interviennent dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas sensibiliser sans avoir un fonds.
D'accord, on ne peut pas sensibiliser sans avoir un fond. Batili, est-ce que les sanctions aussi, vous avez parlé de la répression, est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer davantage la répression également pour en dissuader les gens?
Bon, nous, disons, nous sommes une organisation humanitaire.
Puisque les gens le font aussi au vu de tout le monde.
Voilà, nous, nous sommes une organisation humanitaire qui dit protéger une personne, accompagner une personne, aider à sortir de la dépendance. Il faut avoir des actes plus compréhensibles. Et puis, les sujets de drogue ne doivent pas être des sujets tabous. Les gens qui sont dans la toxicomanie doivent être accompagnés. Passer par la répression, la personne, une fois enfermée, peut découvrir d'autres réseaux de drogue et de trafic. Mais il faut l'accompagner à travers des préventions, des sensibilisations et d'aide. Donc je pense que la solution serait d'aller dans ce sens. Eux, la répression n'est pas une solution pour lutter contre la drogue.
D'accord. Sangaré, comment endiguer durablement ce phénomène qui prend de l'ampleur au Mali quand on voit les chiffres qui sont vraiment alarmants?
Je pense que c'est tout ce qui a été dit ici depuis qu'on est là. Endiguer ce phénomène aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur la sensibilisation et sensibiliser et amener les jeunes à vraiment prendre conscience que prendre de la drogue, c'est se détruire. C'est détruire son avenir, c'est détruire l'avenir même de sa famille. Donc, c'est en prenant conscience de cela, en sensibilisant, que nous allons y parvenir. Et que chaque acteur, chacun dans son domaine, je ne veux pas parler des médecins parce que les médecins, eux, c'est quand ça devient un problème qu'on va vers eux. Donc, c'est tout acteur qui intervient dans une initiative qui peut contribuer à prévenir, que chacun s'adonne à sa mission et qu'il le fasse correctement. Et au sein de notre communauté, il faut qu'on prenne cette habitude même de dénonciation. Parce que le fait qu'on voit dans le quartier, je vois la famille de tel jeune commencer à être bizarre. Il commence à prendre des stupéfiants. Il faut le signaler. Il faut pour que son cas soit traité avant qu'il entraîne d'autres jeunes dans le problème et que lui-même il devient fou. D'accord. Donc il faut aussi qu'on dénonce le plus tôt possible.
Est-ce que sentez-vous également une volonté politique vraiment de lutter ou d'endiguer durablement ce phénomène?
Oui, il y a une volonté politique, comme ça a été dit. On peut le voir à travers les saisies de masse dans les médias qui sont annoncés par la douane et les services de sécurité. Aussi, au niveau du ministère de la Jeunesse, par exemple, il y a une commission qui a été mise en place spécialement pour lutter contre la consommation de la drogue. Et cette commission initie des initiatives d'envergure nationale et de sensibilisation, des campagnes, et afin d'aller vers les jeunes et de les sensibiliser.
Docteur Koné, rapidement, est-ce que il n'y a pas lieu également de renforcer les capacités des organisations de la société civile qui luttent contre ce phénomène?
Oui, il faut une bonne organisation pour endiguer ce phénomène. Et je l'ai dit, ce phénomène, pour le combattre, il faut qu'il y ait un financement. Donc certes, l'État a mis des moyens, mais il faut vraiment mettre de gros moyens et pour que nous puissions ensemble des résultats prometteurs.
Ok, Batili, à votre niveau, quelles sont les actions futures pour vulgariser à l'intérieur du Mali?
Ok, nous avons un projet qui se nomme PLADES. C'est un projet de prévention et de lutte contre la toxicomanie en milieu scolaire. Donc, qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. Sur fonds propres, nous avons pris des bénévoles dans les différentes régions, donc pour mener des campagnes de sensibilisation et de formation des anciens et des comités de gestion scolaire, donc pour parler à la toxicomanie.
Merci. C'est sur ces mots que prend fin cette émission de Grand Dialogue de ce soir. Grand merci pour nos invités d'avoir répondu à notre invitation. À la régie son et vidéo, Gagné Kanté et Mamadou Ouattara. Merci, chers auditeurs, téléspectateurs de Studio Tamani, pour votre fidélité à nos programmes.